Bonjour à tous et à toutes, et c'est vraiment un plaisir de conclure avec nos cinq auteurs ce colloque. J'ai malheureusement pu assister qu'à une partie, à deux et demi très exactement de vos conférences, mais je suis impatiente de profiter de l'été pour écouter les autres et puis bien sûr de voir peut-être modestement contribuer à la mise en place des futurs actes, puisque vous savez tous et toutes que nous aurons des actes du colloque. Et que donc, dans ces actes, on attend de vous que vous mettiez cet été à profit pour retravailler en liaison avec nos universitaires vos excellentes contributions, communications. Et par ailleurs, évidemment, on aura aussi une retransmission retravaillée des interventions de nos auteurs, parce qu'on pense qu'un colloque universitaire, un colloque de recherche sur la fantaisie, ne peut pas être évidemment coupé des premiers producteurs de la réflexion. Parce qu'avant la réflexion des universitaires et des spécialistes, il y a évidemment la production du texte. Et cette production du texte, c'est aux écrivains qu'on le doit. Et je profite de cette remarque pour dire à quel point le Festival des Imaginales, à quel point la ville d'Épinal sont fiers de pouvoir compter sur ce qu'il y a de meilleur chez les écrivains français d'imaginaire, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique ou, je dirais, du réalisme magique parfois, limite de la littérature générale, du mainstream et de l'imaginaire, ces auteurs qui ont, dès le début, soutenu le festival, qui se sont engagés à nos côtés et qui, avec nous, ont grandi. Parce que je pense que le festival aide à faire grandir les auteurs et que les auteurs, évidemment, sont essentiels à faire un festival comme le nôtre. Donc, aujourd'hui, la réflexion qu'on va avoir, c'est sur l'histoire. Alors, vous avez remarqué, là aussi, que dans le cadre de l'extension du travail du festival, on a des partenaires, et parmi ces partenaires, le comité d'histoire régionale, qui est un partenaire de plus en plus présent, dynamique, actif, avec qui on travaille en synergie de plus en plus, et qui justement est un des partenaires de nos différentes initiatives. J'ai donc réuni pour discuter sur les rapports entre l'imaginaire, la fantaisie en l'occurrence, et l'histoire, même si on verra qu'avec Johann Eliot, c'est plutôt la science-fiction, mais comme on dit, il y a plusieurs demeures dans la maison du père, donc on reprendra cette vieille formulation traditionnelle de l'éducation d'un certain nombre d'entre nous pour dire que le regard des écrivains est différent, que la façon de traiter les thèmes sont différents, mais qu'en revanche, beaucoup d'écrivains, et de plus en plus d'écrivains français de fantasy et aussi de SF, se passionnent pour l'histoire, travaillent sur l'histoire, écrivent sur l'histoire et font des romans qu'on ne qualifiera pas tous de romans historiques, mais qui sont en tout cas des romans qui ont un peu, beaucoup et parfois passionnément à voir avec l'histoire. Donc, parmi nous, Johann Eliot, Fabien Cerutti, Jean-Philippe Jaworski, Estelle Faye et Jean-Laurent Del Socorro, le coup de cœur de l'année. Je crois d'ailleurs regarder autour de moi, Estelle Faye a été aussi coup de cœur du festival et a eu un prix Imaginal. Jean-Philippe Jaworski, c'est pour ça que tout le monde le déteste, a eu deux fois le prix Imaginal et a été coup de cœur du festival. Notre ami Fabien Cerutti, lui, a eu le prix Imaginal des lycéens, c'est-à-dire les lecteurs les plus exigeants, qu'on verra demain d'ailleurs pour une nouvelle remise des prix. Et puis, Johann Eliot, qui est un des piliers du festival, qui a été un des premiers à soutenir et à répondre positivement à notre appel, un des premiers à se lancer dans l'écriture du steampunk à la française, et puis a tellement aimé la ville d'Épinal qu'il a fini par s'y installer. Voilà. J'ai terminé avec mon introduction. Donc, la première question, évidemment, sera à Jean-Laurent, puisque c'est le coup de cœur de cette année. Vous êtes coup de cœur du festival avec deux romans, ce qui est déjà pas si fréquent. Deux romans qui parlent d'histoire à des périodes très différentes. Vous n'êtes donc pas ni un universitaire, ni a priori un spécialiste de l'histoire, Jean-Laurent Del Socorro. Alors pourquoi vous êtes vu comme écrivain intéressé à des sujets, à des personnages historiques ?
Je crois que la première raison, en fait, quand j'ai réfléchi sur ce que j'allais écrire, comment j'allais écrire, c'est de me rendre compte que, un, je voulais écrire de la fantaisie, mais deux, que le terreau de notre histoire historique était un terreau fascinant pour y ancrer une part de merveilleux. Ça a été le premier point. Et je crois que le deuxième point, c'est de dire, finalement, parler de l'histoire, et c'est ce que je m'essaye de faire dans chacun de mes romans, parler de l'histoire, c'est raborder sous un autre angle en fait des problématiques qui sont très contemporaines. Donc c'est vrai que l'histoire nous permet d'avoir un recul, je pense, sur des thématiques ou sur des problématiques qui, par le biais du romanesque, mettent en exergue en fait des problématiques qui sont d'aujourd'hui. Quand j'écris ouvertement Boudicca, c'est mettre en avant une personnalité féminine historique, c'est mettre en avant une personnalité qui est une femme forte dans un monde qui est en train tout d'un coup, ou qui était égalitaire et qui devient principalement sous le joug des hommes. Toutes ces problématiques, la place de la femme, la représentation des sexes, des tendances sexuelles, ou ainsi de suite. Finalement, l'histoire permet déjà de, enfin, permet depuis tout le temps en fait de l'interroger. Donc, je trouve que c'est un terreau fascinant pour interroger des problématiques d'aujourd'hui.
Estelle Faye, vous, avec La Voix des Oracles, qui a donc décroché le prix Imaginal en jeunesse, mais qui est un livre qui peut être tout à fait passionnant pour des adultes, vous avez choisi une période de la fin de l'Empire romain. Pourquoi, lorsque vous avez lancé le projet de cette trilogie historique, avez-vous choisi cette période-là?
Dans l'histoire, disons, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les périodes de transition, les périodes où on voit bouger des civilisations. Déjà parce que pour un romancier, c'est un énorme cadeau. Il y a beaucoup de tensions dramatiques sans qu'on aille les chercher très loin. Il y a beaucoup de jeux sur les points de vue entre ceux qui voient mourir leur monde et ceux qui en amènent un nouveau, et ceux qui finissent aussi par changer de point de vue sur ce monde en question. Évidemment aussi, il y a un écho avec la période dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, moi j'ai grandi comme beaucoup d'entre nous, je pense, dans une France où on me disait quand j'étais plus jeune, maintenant c'est la fin de l'histoire, maintenant de toute manière le plus grand du travail a été fait, vous n'allez pas vivre des grandes périodes historiques, vous n'allez pas vivre des grandes aventures, ça c'était pour les gens du passé. Puis après on s'est rendu compte tout à coup que bah, si le monde continue à tourner, pas forcément de manière sympathique tout le temps en plus. Comme vous l'avez dit, La Voix des Oracles, elle a aussi un public ado. Et c'est vrai que le public ado ou jeune lecteur que je rencontre ont grandi dans un monde beaucoup plus sombre que celui que moi j'ai connu. Voilà, moi quand j'étais jeune, j'ai vu la chute du mur de Berlin, j'ai vu se libérer vraiment une partie de l'Europe, avoir un grand espoir comme ça qui nous arrivait. Et maintenant, au contraire, je vois des adolescents qui ont de l'espoir pour leur vie personnelle parfois, et c'est tant mieux, mais pas vraiment beaucoup pour le monde qui les entoure. Donc, parler de ces périodes de chaos, ça permet. Parler de ces périodes de transition anciennes, ça permet de prendre du recul, de finalement considérer là où nous nous trouvons, dans ce miroir que nous offrent les temps passés. Et aussi pour La Voix des Oracles et a fortiori pour Les Seigneurs de Bohême, qui est mon dernier roman, je me suis documentée autant que j'ai pu sur la fin des empires. Une partie de mon entourage me disait, tout ce que tu lis, c'est vraiment c'est la fin des empires, c'est très désespérant. Mais en fait, non, me documenter sur la fin des empires, ça m'a permis vraiment de me rendre compte qu'aussi bloqué que paraisse une situation, aussi puissant que paraisse un pouvoir, il y a toujours un moment où il finit par s'effondrer. Et en général, d'une manière qu'il n'attendait absolument pas. Et ça, pour moi, c'est énormément porteur d'espoir. Et c'est cet espoir-là aussi que j'essaye de partager avec mes lecteurs. Et pour ceux qui pensent que dans le monde d'aujourd'hui, de toute manière, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire changer les choses, que s'engager, ça ne sert plus à rien, ou que essayer simplement de faire une petite différence, c'est perdu d'avance. En tant qu'auteur, je crois au pouvoir des mots, je crois que les histoires peuvent avoir un impact sur le monde et à mon petit niveau, j'essaye aussi d'avoir cet impact-là, de faire passer cette idée qu'on peut toujours essayer de changer les choses parce qu'on peut toujours les changer.
Fabien Cerutti, Le Bâtard de Cossigan, premier volume d'une tétralogie, qui se conclut d'ailleurs avec le dernier volume aux Imaginales, qui rassemble un petit peu l'ensemble des films que vous nous aviez présenté.
Une trilogie en quatre tomes.
Oui, voilà, absolument.
C'est pas très original.
Vous avez décroché d'emblée le prix,
J'ai copié.
le prix Révélation des Futurias 2015 et le prix Imaginal, comme je le disais, des Lycéens 2015. Vous êtes pas simplement un passionné d'histoire, comme de deux auteurs précédents, mais vous êtes aussi quelqu'un, un acteur quelque part professionnel de l'histoire, puisque vous êtes agrégé d'histoire.
Oui, c'est vrai, j'ai commis cette chose-là. Et ensuite, j'ai réuni les deux, l'histoire qui était ma formation et que j'aimais d'un côté, dont j'ai fait mon métier, et l'écriture qui correspondait à l'aboutissement de tous ces rêves, de toutes ces lectures que j'avais emmagasinées depuis mon enfance, mon adolescence, à la jeune adulte, etc. Et donc tout ça a formé une sorte de chrysalide. Et de cette chrysalide est sortie une série qui justement est à la croisée des deux, c'est-à-dire une série dans laquelle je suis allé voir l'histoire, mais surtout j'ai étudié l'histoire sur le très 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 long terme, ce qui se fait très rarement, sur le temps extrêmement long de l'histoire, et j'ai étudié les évolutions historiques, mais aussi les évolutions des mythes, les évolutions des légendes, la disparition progressive de certaines légendes, l'apparition d'autres, et en faisant ça, ça m'a ouvert des portes scénaristiques qui m'ont semblé extrêmement intéressantes, et j'ai plongé, et voilà.
Pourquoi vous avez choisi une période comme le milieu, presque le milieu du 14e siècle, la Champagne? En fait, ça nous renvoie peut-être aussi aux affrontements dans le monde réel entre la France et la Bourgogne. Enfin, il y a tout cet univers-là et vous mélangez des éléments historiques qui sont très proches de la réalité et puis aussi des créatures, sujet du festival, des créatures mystérieuses, des elfes, des races anciennes qui persisteraient encore. Voilà, pourquoi ce mélange-là entre des éléments historiques, un décalage que parfois d'ailleurs quand on n'est pas spécialiste de cette période on se demande est-ce que ça c'est historique, est-ce que ça c'est inventé, et puis l'idée. L'apparition aussi de créatures, de pouvoirs, de magie, pourquoi ce choix de mélange et pourquoi ce choix de période?
C'est très très complexe comme question. D'abord le 14e siècle dans le travail ou l'écriture que j'ai réalisé, c'est le pivot en fait. C'est un moment où historiquement, on a beaucoup, beaucoup de sources sur la magie avant le 14e siècle, jusqu'au 13e siècle. Et donc, on a en 1326, le moment où le pape décide d'étendre l'inquisition à tout ce qui est sorcellerie. Et après, ben, plus rien, jusqu'à la fin du 15e siècle. Et, enfin, plus rien, il y a sans doute des petites choses, mais il y a finalement très peu de choses pendant cette période-là de deux siècles. Une étrange période où il y a une sorte de grande parenthèse. Alors après, on a de nouveau la chasse aux sorcières, on repart sur des choses extrêmement tendues autour de la magie, mais dans cette période-là, bah finalement, peu de choses. Et donc, ça m'a interpellé, et j'ai essayé de combler ce vide avec mon héros principal, qui est le bâtard de Kosigan, mais en réalité, son descendant, cinq siècles plus tard, son descendant, lui, va essayer de reconstituer toute la trame depuis l'Antiquité jusqu'à sa période à lui, pour essayer de découvrir, d'enquêter, pour savoir si la magie existait ou non, si les créatures étranges existaient ou non. Et il va déterminer qu'elles ont disparu en 1362, pour une raison que je ne peux pas vous livrer.
Jean-Philippe Jaworski, vous êtes aussi enseignant, mais pas d'histoire, de lettres.
C'est bien aussi.
Vous avez commencé par le jeu de rôle. Alors là, vraiment... encore l'histoire, la science-fiction, la fantasy, le jeu de rôle.
Quelque chose de pas sérieux.
Voilà, très mal considéré. Mais quand même, on peut le dire, c'est pas un secret que vous travaillez dans un établissement privé.
Où j'avais ouvert un club de jeu de rôle.
Absolument. Et dans cet établissement privé catholique, vous enseignez. Et à côté de ça, votre jeu de rôle emblématique s'appelle Te Deum pour un massacre sur les guerres de religion. Il n'y aurait pas ce petit côté provocateur qu'on trouve ensuite dans vos romans suivants, et en particulier dans Gagner la guerre, Jean-Philippe Jaworski?
Est-ce qu'il y avait un côté provocateur dans Te Deum pour un massacre? Je pense plutôt que c'était en fait un projet vraiment masochiste. Alors, est-ce qu'il y a un côté provocateur en ce sens qu'il y a une petite influence d'un titre de Louis-Ferdinand Céline et puis aussi l'influence d'un titre d'une grande historienne sur le XVIe siècle, hein, Jeannine Garrison, qui avait écrit un texte qui s'appelait un texte, vraiment un essai historique, hein, un tocsin pour un massacre. Oui, il y a un petit jeu sur les références. Mais je pense que c'était avant tout quelque chose de masochiste. À l'origine, quand je me suis intéressé au XVIe siècle, c'est quand je suis devenu prof de français à l'époque. à une époque lointaine qui témoigne de mon grand âge. La littérature du XVIe siècle était encore au programme en seconde, et c'était un casse-tête pédagogique épouvantable. Comment faire adhérer des classes de seconde, des ados tout juste sortis de troisième, aux textes de François Rabelais, Michel de Montaigne, aux poètes de la Pléiade, j'en passais des meilleurs. Et à ce moment-là, je m'étais replongé dans l'histoire du XVIe siècle que je connaissais très mal, qui me répugnait profondément parce que j'avais un certain nombre de préjugés contre les guerres de religion et ce côté peu glorieux de notre histoire. Et puis j'ai été fasciné par le volet romanesque de l'histoire de France du XVIe siècle, par sa grande complexité. Estelle disait que les périodes de transition étaient fascinantes, et c'est vrai que sur le plan narratif, elles sont extrêmement riches. Au XVIe siècle, on est dans une période de transition permanente. On est dans un entre-deux entre donc on est dans la période moderne, mais on est dans un entre-deux entre la civilisation médiévale et l'époque moderne. Ça m'a tellement fasciné que j'ai eu une pulsion ludique. Quand quelque chose me plaît, il faut que j'y joue. Ça a lancé le jeu de rôle qui était destiné uniquement à mes joueurs, et puis que j'ai diffusé sur le net, et puis qui a attiré un éditeur, et puis qui a été publié, et puis la mécanique s'est enclenchée. Mais à l'origine, je ne pensais pas provoquer mon établissement, d'autant plus que quand j'ai écrit le jeu de rôle, le jeu de rôle se remettait difficilement de l'affaire de Carpentras, d'une campagne de presse anti-jeu de rôle, en particulier une campagne de presse qui avait été organisée par Maître Collard, Jacques Pradel, par des journalistes qui avaient fait leur beurre avec un certain nombre de préjugés anti-rôlistes. Et du coup, non, j'étais pas du tout dans l'optique de la provocation. Alors c'était de la provocation inconsciente. Ensuite, je suis rentré dans le personnage, hein, après tout, ça marche. Donc, autant. D'ailleurs, avec Fabien, on évoquait une stratégie possible pour faire parler de nous au sein des magazines de littérature générale. En fait, une stratégie fondée sur la provocation, ça devrait pouvoir marcher.
Voilà. Gagner la guerre, votre premier roman, après un recueil de nouvelles, évidemment attiré l'attention, décroché, ce qui est quand même assez rare au festival pour un premier roman, le prix Imaginal, le livre a tout de suite très bien marché, en tout cas bien marché, le livre a été repris en poche, et puis vous êtes devenu en quelques années quand même un des auteurs qui comptent dans la fantaisie française. Vous avez quand même une sorte de cynisme des personnages et des situations, et ça pose la question du regard sur l'histoire que vous mettez en scène dans vos romans de fantaisie, en particulier celui-là, puisque ça se situe dans un monde évidemment alternatif, où il y a un peu de magie, même si ce n'est pas au cœur du roman. Essentiellement, c'est, vous l'avez dit, donc je ne trahis pas un secret, c'est un hommage évidemment à une période bien précise de l'histoire. C'est aussi un hommage à la ville de la Sérénissime, la ville de Venise. Évidemment, ça nous renvoie aussi à l'affrontement avec les Turcs à l'époque. Et puis, la question du pouvoir est au cœur de Gagner la guerre. Comme le titre l'indique, on gagne la guerre après, c'est-à-dire que c'est entre les vainqueurs que les couteaux sont réellement sortis, comme le dit le personnage principal, pour s'interroger sur qui va profiter, tirer les marrons du feu. Donc c'est quand même une métaphore du pouvoir. En quoi décaler, vous auriez pu parler du monde d'aujourd'hui, de la politique aujourd'hui, de la crise, etc. Non, vous avez choisi de partir dans une période 5-6 siècles en arrière, oui. Pourquoi ce choix chez un écrivain de fantasy, justement, de parler de choses vraiment très contemporaines, la question du pouvoir et de ses moyens, la morale aussi, ça nous renvoie bien évidemment à un essai célèbre. Pourquoi ce choix, alors que vous auriez pu, et votre formation et votre agrégation vous y préparez, devenir un maître de l'autofiction à la française?
C'est vrai, j'aurais dû d'ailleurs. Alors, je pense que le choix, il m'a été en partie imposé, en fait. Enfin, il vient en partie de l'extérieur. On en parlait un instant aussi avec quelques personnes. J'étais en train même de placer mon recueil de nouvelles Janu Avera avec un panel de personnages et de registres qui sont extrêmement différents. Et j'étais conscient du fait que pour classer un manuscrit, il fallait déjà faire miroiter aux yeux des éditeurs la possibilité d'un deuxième manuscrit. Donc, je sondais mes premiers lecteurs en leur demandant, dans les personnages de Janua Vera, dans les nouvelles, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Quel est le personnage qui vous a vraiment plu? Et ces sagouins, ils ont élu la raclure, l'enfoiré, hein, le tueur à gages sans morale. Donc, je me suis dit, pour des raisons bassement marketing, il faut que je reprenne mes Benvenuto. Donc, il y avait déjà cet aspect-là. Le personnage avait séduit mes premiers lecteurs, donc c'était un personnage vendeur. Et finalement, c'est assez révélateur des attentes du public contemporain. C'est de votre faute, c'est pas de la mienne, hein, toutes les horreurs que j'ai pu écrire. Alors, mes premiers lecteurs avaient eu raison, manifestement. Moi, je me disais, en écrivant Galileg, hein, je vais perdre tout mon public, en particulier le public féminin, quoi. C'est abominable ce qu'il dit, ce qu'il fait. Finalement, c'est quelque part un choix de l'époque. C'est l'époque qui attend ce type de sale personnage. Alors après, dans la mesure où j'allais reprendre un personnage noir, je l'ai nourri de noirceur, donc je l'ai nourri de Nicolas Machiavel. Alors, à partir du moment où je reprenais Le Prince et dans une moindre mesure le discours sur les premières décades de Tite-Live de Machiavel, il fallait que je replace tout ça dans un cadre Renaissance, et puis le fil est venu. Le décalage qui existe même entre le cynisme du personnage et son humour, puisqu'il est assez drôle, ça vient aussi de Machiavel, qui était en fait, dans la vie courante, un plaisantin, ce qui n'empêchait pas d'écrire des horreurs absolues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors là, au niveau du rapport avec l'époque, et de notre époque, moi, mon but premier, c'est d'écrire de la littérature d'évasion. J'ai pas forcément pour ambition de faire passer des messages extrêmement forts dans mes textes, mais dans la mesure où je me suis inspiré de la pensée de Machiavel, et que j'ai écrit sur le pouvoir, par exemple... La dernière élection présidentielle, moi, m'a inspiré, je me suis retrouvé à Ciudadia, quoi. Avec quelqu'un qui arrive au pouvoir en utilisant une philosophie qui était celle que j'avais exploitée pour écrire de la fiction. Et donc là, c'est la réalité qui est en train de se calquer sur la fiction et pas l'inverse.
Très bien, c'est vrai.
Ça me fait penser à quelque chose. En réalité, la démocratie a quand même un petit peu changé les choses parce que c'est un petit peu moins à coup de dagues, de poison, d'assassinat que le pouvoir va transiter. Et
c'est moins drôle.
Les moyens ont légèrement changé, c'est donc beaucoup moins drôle, je ne te le fais pas dire.
C'est vrai, et d'ailleurs, on pourrait épiloguer sur les rapports entre le réel et la fiction, c'est toujours un sujet de débat, mais... Là, je vais passer la parole à Johan Elliott, qui est un petit peu, comme je l'avais dit dans ma présentation, légèrement décalé. On s'était d'ailleurs interrogé sur cette table ronde, est-ce qu'on associe Johan Elliott ou pas? Non, pas évidemment, parce qu'on s'interrogeait sur sa présence. On était ravis de l'avoir à la fois au festival et à cette tribune, mais parce qu'en effet, Johan écrit assez peu finalement de fantasy, pas vraiment de fantasy historique, quoique un livre... dont on parlera peut-être un peu, Reconquérant, est aux limites de la science-fiction, de l'Uchronie, un peu de la fantasy, un peu le mélange des genres, mais quand même. Si on prend, on parlera de Grand Siècle après, si on prend ce qui vous a fait connaître, particulièrement, en tout cas reconnaître d'un lectorat, c'est ce que j'appelle la trilogie Ishkis, c'est ces extraterrestres qui arrivent dans une sorte de monde alternatif du 19e siècle, à l'époque où Napoléon III n'a pas été défait à Sedan, mais où il est toujours vivant, dans quel état c'est un autre débat, il est au pouvoir, et en gros, les extraterrestres qui avaient besoin de technologie, le 19e, la fin du 19e est vraiment le siècle de la technologie, eh bien, en échange d'aide biologique pour faire survivre l'empereur, passe une alliance avec... le régime de Napoléon III, qui donc se poursuit beaucoup plus longtemps que dans notre monde réel. En quoi, vous qui avez été pendant 15 ans, à peu près 20 ans, 15 ans, un professeur d'histoire, lettres histoire, pourquoi vous vous êtes intéressé à l'histoire en général, Pourquoi vous êtes intéressé particulièrement au XIXe siècle? Ce n'est pas le seul texte où on voit des personnages réels réutilisés. Et pourquoi glisser dans tout ce contexte des extraterrestres?
Beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, contrairement à mes petits camarades, moi, je n'ai jamais voulu choisir entre histoire et littérature. Je me suis dit, voilà, donc j'ai enseigné les deux. Voilà. Centriste en tout, voilà. Puis moi, je suis quelqu'un qui est consensuel à fond. Et pas très longtemps. En fait, j'étais très peu de temps devant élève. Moi, ça avance. N'empêche pas d'en garder un très bon souvenir. Alors, pourquoi tout ça? Quand j'écris ce tout premier livre, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'y ai mis un petit peu tout ce qui m'avait moi-même nourri, fait grandir, toutes mes influences de jeune lecteur. Et il se trouve que c'est à peu près au même âge, il y a 10-12 ans, que j'ai découvert en parallèle la science-fiction, au travers de tous les grands classiques, et également les auteurs de romans feuilletons, qui ont été une très grande influence pour moi, les Maurice Leblanc, Gaston Leroux et autres. Donc déjà, pour le choix du 19e siècle, je pense que j'ai voulu me placer un petit peu dans ces espèces d'époques qui m'avaient fortement marqué en tant que jeune lecteur. Et ensuite, et là je vais me raccorder donc à ma très courte expérience d'enseignant, j'enseigne l'histoire dans un lycée professionnel, où on met très fortement l'accent sur le 19e siècle. Donc ce qui m'a permis moi-même d'ailleurs de me former sur ce siècle, et je me suis découvert, j'ai découvert que moi-même j'avais beaucoup de méconnaissances sur cette époque. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, en particulier sur l'extrême modernité technique, technologique, sociale et autres de cette époque, et j'ai voulu mettre tout ça dans ce premier roman. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je me suis intéressé aux technologies de l'acier et autres, des machines telles qu'elles sont apparues, qu'elles se sont développées au 19e siècle. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre en avant comme personnage historique important dans ce roman Louise Michel, que beaucoup de gens avaient occulté, avaient oublié, et qui reste pour moi encore d'une modernité dans ses combats, dans ses engagements, éducation pour tous, etc. Très importante. Et voilà, j'ai voulu aussi rendre hommage à des personnes de l'histoire occultées. Et puis, j'ai rajouté les ingrédients de science-fiction classique, l'invasion extraterrestre, ces grands engins volants arrivant de l'autre bout de la galaxie, parce que c'était, mais également, en parallèle avec les romans les feuilletonistes du 19e, j'étais très marqué par les grands classiques du space opéra que j'ai découvert au même moment. Donc je crois que j'ai fait ce qu'on fait souvent quand on écrit un premier roman, on essaye d'intégrer tout ce qui nous a nourri, tout ce qui nous a amené à se dire qu'un jour on allait essayer nous aussi de raconter une histoire de science-fiction.
Ce n'est pas le seul roman, enfin en l'occurrence là c'est une trilogie, c'est bien trois volumes.
En trois.
Exactement. C'est aussi un intérêt pour d'autres périodes de l'histoire. Et votre série, là, Grand Siècle, c'est évidemment le siècle de Louis XIV, là aussi modifié par rapport à celui que nous connaissons. Pourquoi vous êtes intéressé, ce qui est quand même là peut-être plus surprenant pour un lecteur d'imaginaire français, pourquoi vous êtes-vous intéressé comme écrivain d'imaginaire au siècle de Louis XIV et à Louis XIV?
Alors là, la réponse est toute simple. Parce que personne d'autre ne l'a fait, à ma connaissance, je vais essayer de ne pas dire l'habitude, mais je me suis vraiment posé cette question. J'ai voulu revenir, donc il y a 2-3 ans, à un nouveau cycle d'Uchronie, aux limites parfois de la fantasy, puisque ma version de la science de l'époque, étant ce qu'elle est, elle est assez baroque, et il y a une part de magie vraisemblablement qui lui permet de fonctionner. Mais comme je me suis interrogé, je voulais pas revenir au 19e siècle, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire dessus, mais enfin, voilà. Pour ma part, un petit peu fait le tour. Et il m'a très vite apparu que le grand siècle était très peu utilisé dans les univers de fiction, bien sûr, dans le roman historique, c'est autre chose, mais dans les univers d'imaginaire. Et Louis XIV, qui est sans doute peut-être le personnage historique avec Napoléon, peut-être le plus connu en France, du moins les gens ont l'impression de le connaître, n'apparaissait pas, à ma connaissance, vous pouvez me détromper, n'apparaissait pas dans les fictions qui nous intéressent. Donc je me dis, voilà, je vais faut que je m'intéresse à ce grand C. Et puis, voilà. Et j'ai commencé par faire, comme je fais toujours, me plonger dans des biographies, enfin des ouvrages sur ces personnages. Et j'ai été voilà, fasciné par tout ce que j'ai redécouvert aussi, ce que je croyais connaître, et donc du coup mal connaître. Et en redécouvrant tous les grandes questions de l'époque, les personnages, voilà. J'avais un terrain de jeu qui s'ouvrait à nouveau.
Il y a aussi un roman, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est vrai que j'y étais en train d'y repenser, Reconquérant, un curieux roman. J'ai bien aimé personnellement, qui imagine qu'un groupe de Romains qui manque d'être éliminé, comme ça se faisait parfois à l'époque de façon assez violente, entre un clan en éliminait un autre, et donc quitte Rome, s'enfuit, se perd un peu en mer et va très très loin. Vous devinez où est-ce qu'ils atterrissent, évidemment, en Amérique, bien avant Christophe Colomb. Ils font souche et reviennent, parce que quelque part, les vengeances, c'est un plat qui se mange froid, et là, en l'occurrence, très froid, puisque c'est beaucoup de siècles après. Pourquoi cette idée-là de Romains qui vont se réfugier, qui reviennent ensuite régler les comptes avec un empire romain, qui finalement, dans l'histoire que vous nous racontez, ne s'est pas effondré, mais a persisté?
Oui, alors, même si un empire romain qui a persisté, qui a connu à venir un lent effondrement, beaucoup plus lent que dans la réalité, et qui s'est transformé, métamorphosé en sorte d'empire crépusculaire, habité par des créatures et de la magie, donc avec une vraie part de fantaisie dans ce roman-là. D'abord, pourquoi les Romains? Alors ça, hein, je vais à nouveau remonter dans mes souvenirs d'enfance, parce qu'il a nourri mon imaginaire, outre les livres que je citais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de films, et il y a eu en particulier nombre de péplums, les grands classiques. Et voilà, j'ai toujours adoré ces histoires de légionnaires romains, plus ou moins fantasmés déjà à l'écran, mais voilà. Et donc, quand j'écris mon deuxième livre, parce que Reconquérant, c'était mon deuxième livre, après avoir réglé, je dirais, la question du 19e siècle, j'ai voulu régler cette question avec mes influences de jeunesse, voilà, et faire vivre une grande aventure à une légion romaine. Mais je voulais pas, à nouveau, d'une aventure classique, je voulais la confronter à d'autres influences, aux univers de fantasy, etc. Donc j'ai imaginé effectivement, d'un côté, le développement d'une civilisation dans ce nouveau monde, dans cette Amérique, enfin, qui ne s'appelle donc pas, ne peut pas s'appeler l'Amérique, et puis, à une époque qui correspondra à une pseudo-renaissance, un retour dans l'ancien monde et la confrontation avec l'Empire effondré, voilà, les restes de cet Empire romain.
Estelle Fay, on revient à vous par Rome, justement, puisque c'était votre premier roman, en tout cas, première trilogie, premier roman à vraiment avoir un grand succès. Quand vous avez eu l'idée de cette série avec une héroïne adolescente, fille d'un général romain important, en Gaule, donc l'histoire démarre en Gaule, même si ensuite elle va aller beaucoup plus loin, vous y mélangez là aussi de la magie, puisque cette jeune femme a un pouvoir qu'elle d'ailleurs doit dissimuler, qu'elle dissimule, parce que ça pourrait lui attirer de graves ennuis, au moment où le catholicisme et son intolérance, puisque après avoir été persécuté, il va devenir persécuteur à un certain siècle. Pourquoi justement, vous, à la fois, c'est une fin d'Empire romain, mais à la fois, vous y mélangez, disons, le monde d'autrefois, de la magie, de la croyance en tout cas à la magie, à défaut de sa réalité, et puis le monde de la croyance en un Dieu unique et à ses prophètes et à ses prêtres. Est-ce que ça aussi pour vous, c'est un changement radical de société et de civilisation?
Oui, ça c'est vraiment la charnière à l'origine de Tia, le passage du paganisme au christianisme, parce que justement c'est une période, rejoins un peu ce que disait Joan Eliot, c'est une période que finalement je n'ai pas vu beaucoup dans les littératures que j'aime, en France en tout cas. Et après, il y en a sûrement parce qu'on n'a jamais tout lu. Mais voilà, je ne la voyais pas beaucoup alors qu'elle lit deux choses qui me passionnent. D'un côté, ces mythologies anciennes, avec tout leur brio, avec ces dieux qui sont finalement très humains, qui sont pleins de défauts, pleins de failles, mais ce qui rend l'homme plus libre puisqu'il n'est pas écrasé par un dieu sur lequel il n'a aucune prise. Et donc ce monde tellement exubérant, tellement haut en couleur, un monde aussi où les dieux voyagent, où les dieux changent, où Dionysos peut aller jusqu'en Inde, prendre plein de formes, où chacun dit quelque chose de l'humanité, où chaque dieu est finalement un aspect presque exacerbé de l'humanité. Et donc, justement, parler de cette charnière finalement peu présente en littérature, qui est comment tout ça a disparu, a cédé la place à un dieu unique qui a amené aussi son lot d'intolérance et son lot de noirceur et d'injustice, et ce qui a été parfois un peu oublié, même dans cette première période du christianisme, et pas ce qu'on étudie le plus à l'école. Et quand on parle de l'intolérance religieuse, c'est pas forcément à cette période-là qu'on fait allusion, et pourtant elle a existé. Et voilà, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais ramener. Et le choix de cette période dans La Voix des oracles me permet à la fois de profiter de ce décor somptueux et de ces dieux qui deviennent des personnages, et d'un autre côté, quand même aussi de parler de ça.
Vous avez donc choisi cette période parce que c'est un moment de bascule, en quelque sorte, et que ça vous intéresse. Mais vous le traitez de façon différente, peut-être moins directement historique, mais dans la chute d'un empire avec les seigneurs de Bohême, puisque c'est la fin d'un empire en place depuis longtemps, une révolution populaire, ce qui est rare dans la fantaisie, parce qu'on sait que la fantaisie est souvent le lieu des héros, le lieu des grands hommes, le lieu des puissants, le lieu des dieux. Or là, déjà avec Jean-Philippe Jaworski, on avait certes un homme de main un peu sympathique, mais c'était quand même pas un puissant, il était au service des puissants, mais c'était quelqu'un du peuple. Et on a dans Les Seigneurs de Bohême, chez Estelle Faye, on a toute une histoire où les personnages qui sont les leaders de cette révolte sont d'ailleurs pas au départ volontaires, ont pas du tout le projet. Les choses s'enchaînent, comme quand le mur de Berlin s'effondre, comme quand la commune naît, comme plein d'irruptions. Il y a 50 ans, mai 68, qui n'est pas une révolution, mais quand même, certains remue-ménages dans la France de l'époque. Justement, pourquoi la fin des époques et la chute des empires, ça vous intéresse, Estelle Faye, et en quoi la fantaisie peut-elle nous dire des choses, justement, par le biais de la fiction, même si, on le rappelle toujours, le but des romans, c'est aussi nous distraire au sens noble du terme, et puis aussi nous donner du plaisir.
Déjà, si je peux revenir 30 secondes, parce que notamment Jean-Philippe Jaworski avait parlé de la littérature de divertissement et d'évasion. Pour moi, c'est évidemment une dimension essentielle de la fantaisie. Surtout aussi quelque chose qui me touche beaucoup, c'est l'aspect roman de voyage de la fantaisie. Après, et ça c'est peut-être plus personnel, je pense qu'une bonne évasion est justement une qui est chargée d'idées, qui est chargée de sens aussi derrière. Un roman qui a plusieurs niveaux de lecture. Aussi bien le côté grand voyage extraordinaire, que les questions qu'il peut poser derrière, et chaque lecteur est libre d'y prendre ce qu'il veut. Et toutes ces questions-là aussi donnent beaucoup plus d'intensité aux personnages et à leur combat. Et pour moi, un personnage qui finit par se battre pour la liberté, par se battre pour plus de justice, est souvent un personnage chargé de beaucoup plus d'intensité, finalement, qu'une princesse qui veut épouser le prince, quoi. Voilà, on a eu l'exemple récemment. Et après, Les Seigneurs de Bohême, c'est mon dernier roman, mais c'est sans doute celui qui a l'ancrage le plus lointain dans mon histoire et dans ma formation. Parce que très jeune, je me suis sentie prise entre deux histoires avec un grand H, ou plutôt deux visions de l'histoire. Il y avait celle que j'avais à l'école qui était très centrée sur les grands hommes qui font l'histoire, sur les rois, sur les généraux, sur les princes. Et après, sur les grands bourgeois qui pouvaient encore mettre leur empreinte sur le monde. Et d'un autre côté, il y a celle que j'ai commencé à avoir par mon entourage familial, qui n'est pas de grands bourgeois, de rois et de princes, et qui m'a tout de suite beaucoup intéressée, qui est l'histoire de la commune. Donc voilà, forcément, quand j'ai lu le cycle de Joan Eliot et qui parle de Louise Michel, ça me touche énormément, parce que c'est vraiment une de mes héroïnes d'enfance, qui est l'histoire aussi. J'ai des racines dans le sud, donc l'histoire des Cathares, et pas simplement l'histoire de Saint-Louis, le bon roi, mais aussi Saint-Louis, le massacreur d'hérétiques. L'histoire donc de la grève des porcelainiers en 1905, l'histoire des pêcheurs de Terre-Neuve, l'histoire, le 18e siècle, c'est une période de changement, donc forcément ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire aussi de ceux que Gilles Lapoux appelle les gueux de mer, et pas simplement des philosophes des Lumières qui pouvaient écrire pour certains parce qu'ils avaient des revenus qui étaient de fait des revenus de l'esclavage. Voilà, c'est toutes ces histoires différentes qui m'intéressent et qui me portent depuis l'enfance et que je voyais très peu en fantaisie. La fantaisie est un genre que j'aime, que j'adore. Mais plus j'avançais en fait dans la vie, plus je voyais des rois, des reines, des empereurs, ou à la rigueur des bâtards de rois, comme s'il n'y avait qu'eux qui avaient finalement droit de cité en fantaisie. comme s'il n'y avait qu'eux qui, dans nos genres, pouvaient prendre la première place, ou à la rigueur des élus de la prophétie. Mais finalement, l'élu de la prophétie, c'est quand même quelqu'un qui va être choisi par un destin venu d'en haut. C'est pas très différent de quelqu'un qui est roi de naissance. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était comment peut-on mettre des humbles, des petites gens en fantaisie. Et après, intéresser le lecteur avec ça, parce que je suis persuadée qu'on peut intéresser le lecteur avec ça, et qu'il y a des histoires passionnantes, pleines d'aventures, pleines d'enjeux, pleines de suspense, pleines d'actions, qui n'ont pas encore été racontées, qui ne demandent qu'à être racontées. Bah, récemment, d'ailleurs, j'ai un peu cherché plus sérieusement des exemples de cette fantaisie des petites gens, et c'est vrai que j'en ai pas énormément trouvé. L'une des premières que j'ai lues, pour le coup, avant d'écrire Bohène, qui est certainement pas parfaite, mais qui m'a marquée parce que justement elle allait vraiment dans cette direction-là, c'est la série aussi très peu connue de Louise Bujon, Le couteau du partage. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu dans la salle. Voilà, donc c'est vraiment pas très connu. Hein. Mais où pour le coup, les deux personnes qui portent l'histoire, c'est d'un côté donc un vieux soldat qui a connu son heure de gloire, mais il y a vraiment longtemps, du groupe de soldats légèrement sorciers et mis au banc du reste de la société. Et d'une petite paysanne qui se retrouve à fuir son village parce qu'elle est enceinte, mais pas vraiment de l'homme qu'il fallait. Et ils vont se rencontrer, et ils vont vouloir rester ensemble. Or, dans cette société, qui est une société vraiment divisée en castes très strictes, ils ne doivent pas rester ensemble. Chacun doit rester à la place que la naissance lui a assignée. Et rien que parce qu'ils veulent rester ensemble, ils vont peu à peu impulser un mouvement qui fait qu'ils vont être rejoints par d'autres gens qui, tous à leur manière, se sentent à l'étroit dans leur case. Et peu à peu, ça va s'amplifier. Et sans le vouloir, sans même l'avoir prévu, ils vont bousculer les fondements de cette société tellement hiérarchisée et ils vont changer les choses. Et en même temps, c'est un vrai monde de fantaisie avec voilà, une très très bonne création de monde, une très bonne création d'univers. Oui, alors après, parfois peut-être quelques longueurs, moins d'épices que dans d'autres. Mais déjà, c'est quelque chose que je n'ai pas lu ailleurs. Et voilà, ça m'a touchée. Et c'est ça maintenant que je vais essayer de faire, maintenant que j'ai un peu de bouteille aussi comme auteur, je pense que je ne l'aurais pas fait avant. Bohène, je ne l'aurais pas écrit avant parce que je voulais avoir un petit peu de bouteille derrière moi pour me dire, je veux pouvoir prouver qu'on peut faire des bonnes histoires sans se mettre du côté des rois, des princes ou des empereurs.
Belle déclaration, Estelle Faye. Mais c'est aussi un peu, quelque part, la proclamation en moi, l'écriture de Jean-Laurent Del Socorro. Si je regarde bien Royaume de Vent et de Colère, c'est l'époque, on le disait tout à l'heure, des guerres d'Orient, c'est même si c'est pas le personnage qui est au devant, évidemment ça évoque la période et la personne d'Henri IV, ça évoque la révolte authentique de Marseille, même si elle ne durera pas contre le nouveau roi légitime venu du mouvement Ludo. Et puis ce sont des petites gens, en tout cas des gens comme vous et moi, qui quelque part sont les personnages principaux de Vent de Colère. Des gens qui ont parfois connu des périodes meilleures et des gens qui vont être amenés à faire des choix dans une période difficile. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'histoire, justement, Jean-Laurent Del Socorro? Qu'est-ce qui vous fascine au point de, au-delà de la grande histoire, de faire vivre, un peu comme le disait Estelle, des personnages qui ne sont pas simplement des porte-paroles de l'auteur, qui ne sont pas simplement des silhouettes, qui ne sont pas simplement des symboles, mais qui sont des personnages qui comptent, qui vibrent et qui donc nous touchent. Quel est votre rapport à l'histoire en quelque sorte?
Je pense que l'importance d'un personnage qui justement, comme le disait Estelle, n'est pas un roi, pas un élu, pas un choisi, et bien, effectivement ça permet de se reconnaître beaucoup plus facilement, je pense, à la fois en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'auteur. On peut avoir des choses plus simples, je pense, à partager. Estelle disait, oui, il y a l'exemple des gens et des romans sur lesquels il y a un dieu qui choisit un héros, un roi qui, de fait, a le pouvoir. Bon, alors, c'est pas dans Royaume, mais c'est dans Boudicca. La première phrase, c'est « il n'y a pas de hasard, seulement des destins qu'on choisit d'incarner », et c'est vraiment ça. Royaume de Vent et de Colère, c'est des gens comme vous et moi, alors qui ont des problématiques, j'allais dire, ou quotidiennes, ou parfois un peu plus hautes. Mais on a, si on regarde bien, Royaume de Vent et de Colère, c'est qui? C'est une ancienne mercenaire qui essaie de se reconvertir dans un commerce. c'est de prêtres qui sont en fuite pour des raisons personnelles parce qu'ils sont en désaccord avec leur hiérarchie. C'est un chevalier qui est obligé de prendre les armes et une milice pour défendre une ville alors qu'il a quand même un passé très chargé. Et une femme de pouvoir qui, née dans les bas-fonds de Marseille, c'est une position très enviée de guilde des assassins. Donc, on se retrouve avec des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec la grande histoire, mais finalement, justement parce qu'ils sont entre guillemets tout en bas de l'échelle, justement parce qu'ils sont très divers et permis d'aborder la grande histoire par plein de points de vue, le point de vue de religieux avec les deux prêtres, les histoires militaires avec le passé mercenaire d'Axel actuellement tenancière, et ainsi de suite, ça permet d'aborder plein de volets très terre à terre de l'histoire. Et notamment dans Royaume de Vent et de Colère, je me faisais un malin plaisir. Le roi n'apparaît très super. Henri IV n'apparaît vraiment qu'en personnage secondaire. C'est un peu le clin d'œil de ça. Et toute l'histoire, en un mot, tient sur est-ce que le consul de Marseille va être assassiné ou pas. On ne le voit jamais. Il apparaît en creux uniquement à travers ces quatre personnages qui doivent, pour certains, l'assassiner, certains le défendre, certains le croiser. Certains avoir des intérêts ou avoir travaillé pour lui, bref. Et je pense qu'aujourd'hui, et là je rejoins Estelle par rapport à ça, avoir en fantaisie des personnages qui ne sont pas des héros, mais qui sont des personnages qui au départ sont comme vous et moi, eh ben, on n'en voit pas tant que ça. Alors j'ai moi d'autres exemples, on parlait de révolution populaire, moi je pensais par exemple à Antoine Rouault, dans La Voix de la Colère, on a un exemple effectivement d'une révolte, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un frémissement autour de ça, et je pense que quand on écrit l'histoire, on écrit des héros, ça a été des héros. Mais au moment où ils le sont, au moment où on fait l'histoire, on ne choisit pas d'être un héros, on ne choisit pas d'incarner, on ne va pas dire on a le label, je vais être dans les guides d'histoire plusieurs siècles après. Donc je pense que c'est ça aussi, de revenir qu'à un instant précis, on n'est pas un héros, on le devient. Après, par les écrits, par les historiens, ou pas, d'ailleurs.
Le second roman, Boudica, qui évoque donc la révolte historique d'une reine celte face à l'Empire romain, donc ce qui est maintenant le Royaume-Uni, vous passez du 16e au 1er siècle après Jésus-Christ, une belle balade dans l'histoire. C'est une insurrection extrêmement violente, y compris le massacre à son tour, puisqu'elle est victime des Romains avant. Mais en quoi ce personnage, qui est d'abord un personnage de femme, pas si fréquent à l'époque, même s'il y a des reines saintes, en quoi en quelque sorte une révolte qui cette fois-ci est une noble, mais une révolte contre une occupation étrangère, à partir d'un déclic, y compris d'une sottise d'un responsable romain, en quoi ça montre aussi la plasticité de l'histoire, c'est-à-dire que la révolte de Boudica n'était peut-être pas vouée à l'échec. Ça s'est joué à relativement peu, puisqu'au départ, ils ont quand même juste réussi à détruire Londres, à éradiquer pas mal de colons et à marcher quand même face à des armées qui ont été en danger. Les Romains auraient pu être expulsés complètement de ce qui n'était pas encore le Royaume-Uni. Donc, est-ce que chez vous aussi, ce qui vous intéresse, c'est les moments de bascule de l'histoire, Jean-Laurent Del Soco ?
Oui, alors évidemment, on est sur les deux périodes que j'ai traitées, qui sont les guerres de religion pour l'instant, et l'exemple donc, de Boudica Boadicée sur l'île d'Angleterre face à la résistance romaine. C'est des périodes où il y a des cultures, où des débuts et des fins de périodes. Parce que je pense qu'effectivement, c'est là où, comme le dit si bien Estelle, c'est là où il y a des changements, des interrogations. Enfin, c'est un vivier à raconter, et surtout en termes de notions à aborder pour un auteur. Sur Boudica, c'est une notion très singulière. Quand je me suis... j'ai lu un article historique dessus, je ne connaissais pas le personnage. Je me dis, c'est incroyable, alors que dans mon anglo-saxon, elle est très connue, que ce ne soit pas plus connue en France. Très modestement, je me dis, un roman sur elle, surtout avec l'histoire qu'elle a, vraiment, l'histoire est tout écrite, la trame narrative est tout écrite, et le personnage est fascinant. Eh bien, erreur. Pourquoi? Déjà, on a peu de traces, donc ça a été une reconstruction à l'envers. C'est-à-dire, on a que des traces romaines, de deux romains, dont Tacite, qui parle de Boudica, donc c'est les vainqueurs qui parlent d'une reine 7 de façon très sommaire dans deux textes, et on n'a que la fin, c'est-à-dire qu'on a juste le moment où elle perd et un petit peu où elle apparaît, donc après quelques années auparavant, ce qui fait peu. Donc il faut tout reconstruire à l'inverse, c'est-à-dire qui est ce personnage, qu'est-ce qui va l'amener à une révolte, en sachant que plus on va le construire, elle est noble, a priori, c'est l'hypothèse historique la plus forte, elle est mariée à un roi, donc elle est reine. Au départ, il y a quand même effectivement les Romains qui sont sur l'île, mais pour les nobles, ça se passe plutôt bien. Ils sont romanisés, ils ont le pouvoir. C'est plutôt difficile en fait quand vous êtes en bas de l'échelle. Donc pourquoi elle va devoir se révolter? C'est tout le propos du roman. Qu'est-ce qui amène à un moment une personne qui n'était pas désignée, tout d'un coup à incarner quelque chose de plus grand d'elle, là une révolte? Et là, ça a été tout un travail qui a été fait à deux niveaux. Un niveau romanesque pour émettre une hypothèse et un niveau historique. C'est là pour lequel j'ai travaillé avec un archéologue qui m'a d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc j'ai proposé une première trame de Boudica, un premier texte, un premier jet, et des éléments ont été refusés par mon relecteur, qui s'appelait Gwenal Gegen et que je remercie encore ici. Pourquoi? Pour cause de réalité historique. Je m'appuyais sur des textes ou des hypothèses historiques, notamment basées sur l'archéologie, sur ce qui aurait pu, voilà, d'où elle aurait pu exactement venir, et ainsi de suite. Et ça a été de dire non, si on part sur cette hypothèse-là, ça ne peut être que ça ou que cette variation-là. Donc ça a été une espèce de jeu intellectuel vraiment important, où à la fois il fallait garder un aspect narratif romanesque et à la fois défendre l'historique. Et encore une fois, l'histoire est toujours vainqueur à la fin, parce que l'histoire, effectivement, est surprenante, puisque j'étais élevé à la liberté totale du début du roman, et pourtant, à la fin, quelque chose d'incroyable, une personne comme Boadicée, reine placée au pouvoir, va faire quelque chose, prouver historiquement, une révolte. Pourquoi? Et en plus, elle aurait pu changer réellement l'histoire. Donc j'ai pas la réponse, mais c'est juste, c'est peut-être parce que c'est fascinant, en fait, que l'histoire est plus fantaisie, en fait, que la vraie fantaisie.
Je vous voyais hocher la tête, Jean-Philippe Jaworski, en écoutant ce que disait Jean-Laurent Del Socorro. Et justement, j'allais en venir à un roman que je n'ai pas encore cité, Roi du Monde, enfin une série plus exactement, en l'occurrence Chasse Royale. Votre univers là est complètement différent évidemment de la période de Venise et de la période de notre essayiste bien connu. Vous êtes là dans le monde celte. Le monde celte, je ne sais plus exactement quelle est la période précisée.
Pour les archéologues, c'est la période de Hallstatt, c'est-à-dire le premier âge du fer.
C'est ça.
Sachant que j'ai pris une petite liberté, c'est-à-dire qu'en fait, les éléments archéologiques que j'emploie sont à la jonction entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer. Je ne vais pas me perdre dans les détails.
Justement, ce qui m'intéresse, c'était un peu... C'était pas la problématique du premier roman, puisqu'il se situe à une période qu'on connaît relativement bien, où il y a des textes, où il y a beaucoup de sources quand même, qui est la période des guerres de religion en France. Mais à l'inverse, pour Boudica et pour cette série Roi du Monde, qui donc se situe quand même dans le monde celte avant ce que nous on considère dans notre tradition comme un point de référence qui est la naissance du Christ, ce monde celte, on a très peu d'éléments pour le reconstituer, pour l'imaginer. C'est une société, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'écriture, il y en avait sans doute une, mais en tout cas, on ne la connaît pas. On n'a pas de texte quasiment, on a très peu d'inscriptions, on a très peu de choses, à part des objets sur lesquels s'appuyer, et y compris, comme pour le cas de Boudica, souvent, les peu de sources qu'on a, mais ce n'est même pas le cas là, ce sont souvent les adversaires quand on en a, ce qui évidemment ne sont pas nécessairement des sources d'une grande honnêteté intellectuelle et d'une grande fiabilité. Comment, quand on veut donner quand même un contexte à une œuvre d'imaginaire qui travaille sur l'histoire, comment, Jean-Philippe Jaworski, essaie-t-on néanmoins d'avoir un peu de réalisme et en tout cas de ne pas être infirmé par les connaissances de la science historique? Comment on fait pour construire de la fiction dans un univers romanesque dont les bornes sont mal connues et les fondements mal connus? Est-ce que c'est justement en jouant sur le peu qu'on connaît, et la magie, et sur la conception des peuples celtes qui mélangent les faits et la croyance.
Je me suis reconnu dans mon travail, dans pas mal de choses, de ce que tu disais, Jean-Claude, en particulier sur le fait que moi aussi j'avais la fin, puisque moi je tire mon sujet d'une page de titre livre, mais je n'avais pas de début. Et en fait, tout ce que j'ai publié à présent, c'est-à-dire 4 volumes, c'est sur le début. C'est ce qui a amené un Celte, et dans mes romans, je n'y suis pas encore en Italie, mais ce qui l'a amené à arriver en Italie et à être le premier barbare à venir casser les pieds aux sociétés étrusques et grecques qui étaient implantées. Alors que ça fait déjà plusieurs siècles que les Celtes sont présents dans le nord de l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ben, justement, pour aller au plus pressé, en s'appuyant sur la science, sur les éléments lacunaires que nous donnent les progrès de la recherche en archéologie, en linguistique et dans la critique des textes historiques, parce que les textes historiques, ils sont très anciens, ils reviennent à l'Antiquité, mais ils sont critiqués par certains archéologues et historiens contemporains. Il est très controversé, mais par exemple, Jean-Louis Bruno est un archéologue qui a travaillé sur des sites majeurs, sur des sites de sanctuaires, et qui propose une relecture des textes de l'Antiquité à la lumière des découvertes archéologiques. Donc ça demande un très 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 gros travail de documentation archéologique, de documentation linguistique, puisque je travaille aussi avec, une grammaire fragmentaire de ce qu'on connaît du gaulois et un dictionnaire qui reconstitue une partie du vocabulaire gaulois. J'y travaille en particulier pour tout ce qui est topographie et onomastique. Et puis, comme il reste quand même énormément de lacunes, malgré tout, je triche, mais je triche avec méthode. C'est-à-dire que je vais chercher dans une littérature plus récente, la littérature irlandaise, une partie de la matière de Bretagne, des motifs qui sont manifestement des motifs païens et qui ont été réexploités dans la littérature médiévale, à partir desquels j'extrapole pour essayer de redonner une culture orale en particulier, à ces peuples qui n'écrivaient pas ou qui écrivaient extrêmement peu, en tout cas qui n'écrivaient pas leur littérature. Alors, le paradoxe, c'est que ce travail, qui a priori est un travail de romancier qui écrit des romans historiques, je le mets au service d'une démarche de fantaisie. Et c'est en ce sens que je me rends compte que je suis vraiment masochiste. Je ne prétends absolument pas au caractère historique de mes récits. L'histoire et toute la recherche historique qui la sert, elle est juste au service du pacte de lecture. Il faut que le texte soit suffisamment vraisemblable aux yeux du lecteur pour que le lecteur adhère ensuite au grand n'importe quoi qui est l'irruption du merveilleux dans tout ça. Donc je bétonne le volet historique, mais pas pour faire du roman historique. Et d'ailleurs, je résiste à la pression, j'entendais tout à l'heure des choses qui m'intéressaient sur les romans qui sont présentés avec les romans. Romans qui sont présentés avec un texte très complet. Moi, ça me semble être une absurdité, puisqu'un roman est une fiction. Ce n'est pas de la recherche. Donc, je résiste aux demandes de certains de mes lecteurs qui aimeraient bien avoir un index, qui aimeraient bien avoir des cartes. C'est alors une carte du monde antique chez des Celtes qui, de toute manière, ne se représente même pas ce qu'est une carte. Pour moi, c'est une aberration. Mais il y a vraiment une demande d'un paratexte didactique qui transformerait l'œuvre de fiction en un support pédagogique que je ne veux pas fournir, parce que pour moi, ce serait mélanger les genres, et je revendique le fait d'écrire de la fiction et de la fantaisie, c'est-à-dire que si je m'efforce d'être très précis dans les noms des personnages, dans les noms des lieux, je m'efforce d'ailleurs de gommer parfois les références qui sont trop transparentes. Au cœur de mes romans, il y a un endroit qui est la ville de Bourges actuelle, qui est la capitale des Biturriges, et dont je me dis que le nom est trop connu pour des lecteurs français. César l'appelle Avaricum, donc en gaulois ça donnerait Avaricon ou Avaricon, et je ne l'ai pas mis tel quel parce que je me suis dit que le lecteur ne va plus se retrouver dans un monde secondaire, un monde héroïque. Moi je revendique vraiment le monde héroïque, mais il va se dire: ah oui, c'est là où César a remporté un siège. Et là, la connexion avec l'histoire classique, à mon avis, serait au détriment du monde secondaire. Parce que moi, je veux vraiment donner l'impression du monde secondaire et merveilleux. Donc, autant je vais me documenter de façon très précise sur un certain nombre de références que les lecteurs, a priori, ne connaîtront pas. Il y en a certains qui sont très, très affûtés, hein, qui les reconnaissent. Mais quand c'est trop évident, un autre exemple, et j'ai vu que je faisais de la peine à notre ami commun Stéphane Plateau. J'ai pas mis de Belges dans mon roman celtique, pourtant ils sont là, les Belges, et ensuite ils sont muants. Hein. Mais je les ai pas mis parce que je me suis dit, le lecteur va se dire, ah oui, alors ils sont au nord, donc on va les situer. Non, alors j'ai utilisé un autre nom, je les ai appelés les Orsiniens en me fondant sur la forêt hercynienne ou orsinienne pour justement brouiller les pistes. Donc c'est une démarche qui est très paradoxale, elle est très documentée historiquement, mais en fait je pille l'histoire au service de la fiction.
On arrive à la fin de notre table ronde. Pour conclure, je dirais que si vous aviez en un mot, une phrase à définir, Jean-Laurent Del Socorro, votre rapport de romancier de fantaisie à l'histoire.
En un seul mot, c'est que la réalité historique souvent est beaucoup plus surprenante que la fiction.
Estelle ?
Je vais rejoindre globalement ce que dit Jean-Laurent, c'est-à-dire la documentation historique ou géographique d'ailleurs m'aide à sortir de ma carcasse. Et ce que j'aime particulièrement, c'est quand ma documentation bouscule des préjugés qu'on peut avoir, parce que c'est toujours plus intéressant quand la littérature, l'histoire, la documentation bousculent nos préjugés et nos idées reçues.
Jean-Philippe ?
Ah ben l'histoire, quel fabuleux terrain de jeu !
Fabien Seriti.
Voleur.
Et le dernier mot sera évidemment à l'écrivain spinalien Johan Eliot.
Jean-Philippe utilisait un très bon mot. Nous sommes des pilleurs d'histoire dans les deux sens du mot histoire.
Eh bien, merci à nos écrivains. Je pense que ça nous donne envie de lire leurs livres et ça nous montre aussi, je pense, leur réflexion qui devrait en ouvrir d'autres que la réflexion historique. Eh bien, quelque part, c'est aussi un rapport avec la recherche avec la réflexion historique et que le public, là aussi, est nourri à la fois de la réflexion que vous avez produite pendant ces deux jours de colloque, mais aussi par la production de fiction. Fabien, vous voulez rajouter un dernier mot ?
Oui. Que finalement on crée, on parle de l'histoire, mais on crée une histoire aussi, une histoire qui va être vraie pendant un instant pour le lecteur, et ça aussi c'est une petite brique à un édifice géant.
Voilà un vrai slogan de campagne électorale, les histoires sont vraies. Merci à vous.